Bonjour à toutes et à tous, que la grâce et la paix de notre Dieu soient sur nous. On en a besoin avec cette chaleur, n'est-ce pas? Voilà, ce matin j'aimerais vous parler de, vous présenter un verset que tous les chrétiens ils aiment bien, parce qu'ils sont remplis de vérité, mais il y a certaines choses que nous répétons constamment dans ce verset, d'autres choses que nous savons mais nous ne mettons pas en pratique. Et voilà, pour cela, nous allons le regarder ce verset et en retirer des enseignements spirituels qui nous seront très utiles dans notre vie chrétienne. Prenez le Romains chapitre 8, le verset 1 à 8. Romains chapitre 8, verset 1 à 8, on va lire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen, n'est-ce pas? Ça, c'est une belle vérité. Aucune condamnation. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous sommes libres du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Et tout cela c'est grâce à Jésus-Christ. Verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionne aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, je vous ai parlé de Samson. Et on a vu que dans nos églises, dans l'église de Jésus-Christ, déjà à cette époque-là, il y a les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Et on a vu que Samson, c'est un chrétien charnel. Pourquoi on a dit ça? Parce qu'il était complètement dirigé par ses sentiments, par sa chair. On a vu qu'il n'apportait la bénédiction ni dans sa famille, ni dans son peuple. Donc, il était quelqu'un qui vivait selon la chair, dirigé que par ses propres sentiments, par ses passions. Et qui dit sentiments et passions, c'est qu'il était dirigé par la chair. On a vu que chaque fois qu'il rencontrait une femme, il prenait feu. Et pourtant, il connaissait ce que Dieu il demandait de lui. Et on a vu que ces choses-là, elles ne sont pas bonnes pour un chrétien à notre époque, car il nous le dit, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. On a vu Samson, un chrétien charnel. Ce matin, nous allons voir un chrétien spirituel. Un chrétien spirituel qui apporte la bénédiction dans l'église où il se trouve, qui apporte la bénédiction parmi les frères et sœurs, et qui ne fait qu'une seule chose, il fait tout pour que l'édification de cette église et que cette église puisse avancer dans l'amour et dans la grâce du Seigneur. Ce personnage dont je vais vous parler, c'est Barnabas. Barnabas. Barnabas, il est nommé 27 fois dans le livre des Actes. Et c'est quelqu'un, on ne connaît pas s'il a sauvé quelqu'un. On ne sait pas tous les biens qu'il a pu faire. aucune prêche, et pourtant, il est là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'il a fait du bien à l'Église dans laquelle il était. Alors, on va voir ce matin les caractéristiques d'un chrétien spirituel, quelqu'un qui apporte à l'Église dans laquelle il est des bénédictions pour que l'Église puisse avancer dans l'endroit où il se trouve. Pour cela, il faut regarder dans le livre des Actes et nous allons voir les caractéristiques d'un homme spirituel, Barnabas, chapitre 4. On va lire le verset 32 jusqu'à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, l'unisson, voilà. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons le vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà, déjà ici, on voit déjà deux caractéristiques de ce Barnabas. Il fréquentait cette église, Antioche, et les apôtres qui étaient là, ils s'appelaient Joseph. Et déjà, ces apôtres, ils ont vu son caractère, et ils lui ont changé le nom à Barnabas, que ça veut dire « fils d'exhortation ». C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était connu dans l'Église et par le responsable de l'Église, de quelqu'un qui apportait une exhortation, qui encourageait, qui exhortait ses frères et sœurs. Il était toujours là pour apporter le bien-être de tous ses frères et sœurs. Il exhortait. Ça, c'est une bonne caractéristique d'un chrétien spirituel. Et ici, dans ce verset, on voit une autre caractéristique. Barnabas, c'est quelqu'un qui donne. C'est quelqu'un qui donne. Donner, offrir pour un enfant de Dieu, hein, n'est pas un fardeau, une obligation onéreuse, mais une joie. D'ailleurs, lorsqu'on passe pour les dîmes et les offrandes, on joue de la musique. Est-ce que lorsqu'on paye nos impôts, nous jouons de la musique? Hein? Mais voilà, il donne. Comment est-ce qu'on voit qu'il a donné? Ici, il nous est dit que Barnabas était un lévite. Et selon la loi, un lévite, il n'avait aucune possession. Mais c'était un lévite qu'il habitait à Chypre. Hein? Donc, normalement, un lévite, il n'avait aucune possession. La seule possession qu'il pouvait avoir, c'est le Seigneur. Mais on a vu que le Seigneur, il est intervenu par la suite, et cela, on le voit dans Jérémie. À un certain moment, le Seigneur, il dit à Jérémie qu'il était sacrificateur, qu'il était lévite, donc il ne pouvait ni vendre, et il n'en avait pas, parce qu'il était lévite, et il ne pouvait non plus acheter, parce que la seule possession qu'il devait avoir, c'est le Seigneur. Et là, dans ce chapitre, Dieu, il dit à Jérémie, achète un champ. Donc à partir de ce moment, le Seigneur, il donnait autorisation, il donnait la permission à un lévite d'acheter. Et lui, Barnabas, il avait un terrain. Et qu'est-ce qu'il a fait? il a vendu le terrain et il l'a distribué dans son église. Il y en a beaucoup qui ont voulu suivre l'exemple de Barnabas, exemple Ananias et Saphira. Ils ont voulu faire la même chose à l'église de Jérusalem, mais vous connaissez l'histoire, ils ont menti. Ils ont vendu un terrain pour une chiffre et ils ont dit aux apôtres qu'ils ont vendu pour une autre chiffre. Et alors Pierre, rempli de l'Esprit, il a dit « Pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit ?» Mais lui, Barnabas, il a donné. Il ne faut pas en retirer l'enseignement. Parce que je vous l'ai déjà dit, dans le livre des Actes, on ne doit faire aucune doctrine. Ce n'est pas que si vous avez des possessions que vous devez les vendre et les donner à votre église. Chose qu'ils ont fait pendant le Moyen-Âge, des gens qui possédaient des terrains, des possessions, et ils ont dit, voilà, vous avez des possessions, si vous n'avez personne, donnez-les à l'église. Et l'église est devenue cet puissant État qui a gouverné partout. D'ailleurs, ils ont utilisé ce verset qu'il est dit dans le sermon sur la montagne, difficilement un riche y rentrera dans le royaume de Dieu. Donc il disait, donnez tout ce que vous avez. À qui donner? Pas aux pauvres, mais donnez-le à l'Église. Et Barnabas ici, c'est quelqu'un qui donne. Il avait des possessions et il les a données à son Église. Pourquoi? Parce qu'un chrétien, il doit donner. Parce que tout ce que nous avons, Dieu, nous le recevons de Dieu. Ce n'est ni notre force, ni notre santé qui nous a permis d'acquérir tout ce que nous possédons. Mais tout vient de Dieu. Et ça, c'est une bonne caractéristique pour chacun de nous. Pourquoi? Parce que il voulait que son Église elle soit unie, qu'il n'y ait pas des pauvres, qu'il n'y ait pas des gens qui soient dans le besoin. C'était quelqu'un qui pensait aux frères et sœurs. Et ainsi, nous devons être nous-mêmes. Il nous a dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Voilà pourquoi c'est très important. Pour qu'une église puisse avancer, que nous ayons soin des uns des autres. Le Seigneur a quelques-uns ici ou partout. Il a donné beaucoup de moyens. Il a donné des moyens. Mais Jésus, il parle clairement sur ces choses-là. Elles sont des richesses indignes, impures. Pourquoi? Parce que nous ne méritons rien. Si le Seigneur nous a donné des richesses, un bon compte en banque, c'est par sa grâce. Et nous devons utiliser cet argent pour que les gens que nous côtoyons, ceux qui sont autour de nous, ils puissent profiter de cette grâce que le Seigneur il nous a fait. Voilà pourquoi, il y a quelques temps, je vous avais demandé de vous souvenir, chaque fois que vous allez dans le supermarché à faire des achats, de vous souvenir de ceux qui, peut-être dans notre église, bien sûr, ils n'iront pas vous voir, me dire, j'ai besoin de ça, je n'ai pas à manger. Ils ne vous le diront pas. Mais chaque fois que vous allez au supermarché, prenez quelque chose, ramenez à l'église, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas grand-chose à manger, qui sont dans les besoins. Donc, ces gens-là, ils savent qu'il y a à leur disposition des denrées. Et donc, ils viennent et ils prennent, sans que les gens ils sachent. Parce que nous avons encore une fois un cœur mauvais. Et si on faisait cela ouvertement, moi, les premiers et tous les autres, ils diraient, t'as vu Jean-Pierre, il n'a pas à manger, il vient apprendre à manger ici. On est mauvais, on ne sait pas s'occuper de nos propres affaires. Donc voilà pourquoi un chrétien, c'est quelqu'un qui donne. Un chrétien, c'est quelqu'un qui partage les bénédictions que Dieu il lui a données. Et on voit aussi une autre caractéristique de Barnabas au chapitre 9, le verset 26 à 28. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Barnabas, c'est le chrétien spirituel, il fait quoi? Il accepte ce que les autres, ils rejettent. Et c'est avec raison que l'Église de Jérusalem, ils ont vu Paul arriver, et automatiquement, ils l'ont mis de côté. Il a dit, nous ne croyons pas à ces changements. Et c'est là que Barnabas, il intervient, il parle en sa faveur, il témoigne à tous ceux qu'il a fait, tous ceux qu'il a prêché, que sa vie a changé. Et c'est vrai que il était un persécuteur de l'Église. Et il se disait, mais comment, tu viens ici, tu veux prendre part à nous et nous savons qui tu es. Mais Barnabas, il avait compris ce que l'Esprit de Dieu, il peut accomplir dans la vie de quelqu'un qui se tourne vers lui. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans notre propre vie. Dans notre propre vie, avant de rencontrer le Seigneur, nous étions une autre personne. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens que, une fois qu'on est converti, ils nous disent, mais je ne te reconnais plus. Je ne te connais plus. Pourquoi? Parce que justement, l'Esprit de Dieu, il a changé la personne. Ce que nous étions, c'est terminé. Et Barnabas, il avait pu discerner en cette personne ce changement. Pourquoi? Parce qu'il l'avait vu à l'œuvre. Il avait entendu ce qu'il disait. Il avait vu les changements dans sa vie. Oui, un chrétien spirituel, c'est celui qui sait discerner l'œuvre du Saint-Esprit en quelqu'un. Voilà pourquoi c'est quelque chose de très important dans notre propre Église. Nous devons accueillir ceux qui sont rejetés. Même s'il y a des dires derrière, regardons. Premièrement, s'il a vraiment le Seigneur dans son cœur. Regardons comment sa vie s'est durée, quel est son témoignage. Et allons, voilà pourquoi aussi ils l'ont appelé Barnabas, fils d'exhortation. C'est celui qui, il voyait quelque chose qui n'allait pas en quelqu'un, il y allait. Et il exhortait la personne, il la prenait par la main et il l'accompagnait. Et c'est exactement ce que nous devons faire. Et c'est comme ça que le Seigneur, il va être glorifié. Barnabas, il construisait l'église dans laquelle il était, où il s'est trouvé, en y mettant cette unité, cette union par laquelle nous ne pouvons pas vivre sans. Parce qu'en tant qu'église, des fois on prie, Seigneur, unis-nous. Mais l'union, ça ne dépend pas de Jésus-Christ. Mais l'union dans l'Église, ça dépend de moi. Attention, pas de moi en tant que pasteur, hein, de moi, vous tous. Hein. C'est à chacun de nous d'y mettre son grain. Pourquoi cela? Parce que nous sommes unis. C'est Jésus qui nous a déjà unis à la croix. Des deux, il en a fait un. Des pécheurs, il les a sauvés. Donc nous sommes déjà unis. Si nous ne vivons pas cette union, c'est parce que nous ne le voulons pas. Lui, Barnabas, il voulait unir l'Église. Il a vu en cette personne, en ce personnage, ce que Dieu il avait fait, et il a été vers lui, il l'a exhorté, il a exhorté les frères et sœurs en leur disant, voilà, c'est quelqu'un qui a changé sa vie, qu'il est prêt à servir le Seigneur partout. À Damas, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et donc, s'il a fait à Damas, il peut le faire ici aussi. Voyez, un chrétien spirituel, c'est quelqu'un qui accepte les autres, sans regarder la couleur, sans regarder s'il a de l'argent, s'il n'en a pas, s'il a une voiture, s'il a ça. En Jésus-Christ, il n'y a pas de distinction. Il n'y a plus ni femme, ni homme, ni esclave, ni lit. Voilà, on est tous un et nous devons être unis. C'est ça un chrétien spirituel. Chercher à unir l'Église dans laquelle il se trouve. Une autre caractéristique de Barnabas, chapitre 11, le verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Un chrétien spirituel, c'est quelqu'un qui est ouvert aux nouvelles chose que Dieu fait. Que Dieu fait. Il y a eu cette dispersion à cause de la persécution. Et dans cette église-là, il y a eu des gens qui sont arrivés, qu'ils prêchaient que le judaïsme, qu'il fallait accueillir que les juifs. Voilà pourquoi il a été envoyé par l'église de Jérusalem pour leur mettre en garde. Et lui, Barnabas, il arrive, il voit l'union, il voit la bénédiction qui règne dans cette église, et là, il se réjouit au lieu d'y mettre, entre guillemets, les ordres. Parce qu'à Jérusalem, l'église de Jérusalem, à un certain temps, à un certain moment, ils accueillaient que les juifs. Et Pierre, c'était un comme ça, Pierre. Voilà pourquoi Paul l'a repris. Parce que Pierre, il savait ce que le Seigneur il avait fait. Mais comme il était à Jérusalem, tous les Juifs ils étaient là. Quand il voyait qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas juif, bon voilà, il n'intervenait pas. Et Paul, il est venu et il a repris. Il a dit, pourquoi toi, qui as connu le Seigneur Jésus, qui a vu ce que le Seigneur Jésus il a fait, qui nous a unis? C'était des gens qui arrivaient dans les églises, ils disaient, si tu ne te fais pas circoncire, tu n'es pas chrétien. Et Pierre, il faisait la même chose, c'est-à-dire qu'il cachait. Et Paul l'a repris, il a dit, ce n'est pas la circoncision qui fait le chrétien. Mais la vraie circoncision du cœur, c'est celui qui a le Seigneur dans son cœur. Et Barnabas, c'est un chrétien spirituel. Il a vu la grâce de Dieu dans cette église et il a accueilli cette chose comme une bénédiction de Dieu. Et nous devons nous réjouir lorsque nous voyons des choses qui se passent dans notre église, qui nous unissent encore plus, qui louent le nom de Jésus-Christ, et sans dire oui, mais c'est pas comme ça, dans la Bible c'est pas comme ça, et tout ça. Il faut aller du côté que Dieu dit. Vous en souvenez, Pierre? Le Seigneur, il lui avait montré tous les animaux purs et impurs, et il lui a dit, mange. Et Pierre, il dit, mais ah, non, Seigneur, jamais je mangerai de la viande impure. Et le Seigneur lui dit, mange, c'est moi qui te dis de manger. Avant, il y avait les purs et les impurs, mais depuis que Jésus, il est mort sur la croix, tout est devenu pur par son sang précieux. Et un chrétien spirituel, il doit se réjouir de ces choses-là. Il doit se réjouir de ces choses-là. Lorsque l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu, il se propage dans l'Église, nous devons nous en réjouir et faire attention à toutes ces choses, car nous sommes là pour avancer et pas pour reculer ou rester ferme. Il nous est dit, nous savons qu'une église, missionnaire avance. Une église qui ne prie pas pour les missionnaires, il stagne. Une église qui ne prie pas, il n'avance pas. Comment on est dans nos prières? Un chrétien spirituel, il n'arrête pas de prier pour son église, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Comment est-ce qu'on est dans nos prières? On a ici une réunion de prières, vous savez. Il l'a annoncé, les frères. Et on l'annonce tous les dimanches. On a une réunion de prières. Il y en a toujours 3, 4, 5, 6. Pourtant, nous sommes nombreux. Bien sûr, ceux qui travaillent ne peuvent pas venir. Le Seigneur, il connaît, hein? Le Seigneur, il connaît. Vous pouvez prier à la maison, mais la Bible nous dit que la prière faite en commun, elle a beaucoup plus de puissance. Voilà pourquoi. Et lui, Barnabas, c'était quelqu'un qui était là pour faire avancer son Église. Il acceptait toutes les choses qui étaient dirigées pour l'édification des frères et sœurs. Et c'est vers ça que nous devons tendre. C'est ça un chrétien spirituel. Et c'est vers ça que nous devons aller. Mais regardez aussi le verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saül. Il était dans l'église d'Antioche. Barnabas, il était parmi ceux qui l'étaient considérés comme prophètes. C'était un grand homme de Dieu. Il avait la possibilité d'enseigner et tout ça. Il connaissait Paul, il avait déjà travaillé avec lui. Il connaissait la facilité que Paul il avait de présenter l'Évangile. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti pour le prendre, pour le ramener à Antioche. Il aurait pu dire, pourquoi aller chercher un homme puisque je suis là? Je peux enseigner, je peux exhorter, je peux faire ça et ça. Non! C'est quelqu'un qui aime les frères, qui veut que le travail dans l'Église il soit partagé. Et alors il a dit, je vais chercher cet homme-là, je le ramène à Antioche et je suis sûr que le Seigneur, il fera un travail énorme. D'ailleurs, plus loin, il nous a dit que pendant un culte, l'Esprit de Dieu, il a parlé et il a dit, mettez-moi à part. Paul, car j'ai de grandes choses pour lui. Un chrétien spirituel encourage le ministère des autres. Quelqu'un qui sait enseigner, un chrétien spirituel, il l'exhorte de pouvoir le faire. Il y a beaucoup ici des gens qui ont une certaine facilité, qu'ils peuvent enseigner, qu'ils peuvent faire autre chose, mais ils ne le font pas. Un chrétien spirituel, comme Barnabas, il a été le chercher parce qu'il savait que ce que Dieu il a donné à cet homme, il aurait apporté la bénédiction. Des gens ils disent, oui, mais je ne suis pas capable. Tu ne connais pas ce que Dieu a mis dans ton cœur une fois qu'il a élu sa présence en toi. D'ailleurs, le Seigneur, il a dit, ne vous occupez pas de ce que vous allez dire ou faire. L'important, c'est préparer la chose. Vous savez que vous devez apporter une méditation, une exhortation, parler avec quelqu'un. Avant de faire quoi que ce soit, mettez-vous dans la prière. Et alors le Seigneur, il vous donnera, il nous donnera ce dont nous avons besoin. Barnabas, il était comme ça. Et c'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Une dernière caractéristique de Barnabas au chapitre 15. Chapitre 15, le verset 36, c'était l'époque des voyages missionnaires. Hein? 15, 36. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. » Pour voir en quel état ils sont. Voilà, le cœur de Paul, sa seule pensée, c'était d'apporter la bénédiction partout où il était passé. Partout où il était passé. Il n'avait qu'une seule chose dans sa tête, c'est évangéliser. 37. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. C'est lui qui a écrit l'évangile. Ça, c'est pour le deuxième voyage, hein. Il avait eu un premier voyage dans lequel il avait pris aussi Marc. Mais pendant le voyage, Marc, à un certain moment, il a dit « J'en ai marre, je retourne chez moi. » Voilà, voilà comment ça s'est passé. Hein. Il a dit « J'en ai marre, je retourne chez moi, j'ai autre chose à faire à la maison. » Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné Paul dans le premier voyage. Voilà pourquoi il dit « Barnabas voulait amener aussi Jean. » Surnommé Marc. Il voulait l'amener aussi pour le deuxième voyage. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ces deux sentiments furent assez vifs pour qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Voilà, un chrétien spirituel, il pardonne. Il pardonne. Il pardonne. Il désire donner une deuxième chance. D'ailleurs, l'évangile, c'est la bonne nouvelle qui nous donne une deuxième chance. Alors quelqu'un dira, mais alors Paul, il n'a pas pardonné. Ce n'est pas une question de pardonner ou pas. Par la suite, Paul, il a pardonné, bien sûr, il a pardonné. Parce que par la suite, il écrit et lui dit, envoie-moi Marc, qui me sera très utile. Mais sur le moment, Paul, c'est un missionnaire. Et les voyages missionnaires à cette époque-là, ils n'étaient pas comme aujourd'hui, tu prends l'avion, tu te déplaces. Ou tu prends la voiture, tu te déplaces. C'était à pied. C'était une souffrance continue. C'était un travail acharné. Et ce qui s'est passé dans les premiers voyages, c'est que Marc, il était rentré chez lui. Il les avait abandonnés. Voilà pourquoi Paul dit, non, je ne veux pas de Marc parce que j'ai vécu. Dans les premiers voyages, voilà, il nous a abandonnés et le travail, il aurait dû faire. Mais lui, il est parti. Voilà. Mais alors, il y a eu dissension. Alors, Barnabas, il a pris avec lui. Si vous voulez, de cette dissension, il y a eu l'avancement. Parce qu'au lieu d'une équipe missionnaire, il y en a eu deux. Paul, avec ceux qui sont partis avec lui, et Barnabas avec ceux qui sont partis avec lui, et en plus, Marc. Voilà, il pardonne. Mais Paul, encore une fois, il a pardonné. Mais il faut comprendre le cœur de Paul. Paul, il n'avait qu'une seule pensée. évangéliser. D'ailleurs, s'il aurait à écouter son cœur, il aurait été partout. Il n'avait qu'une seule chose dans sa tête, c'est annoncer la bonne nouvelle. D'ailleurs, il nous est dit toujours dans le livre des Actes, hein, qu'il voulait aller quelque part, et c'est le Seigneur, il a dit, non, là tu ne vas pas. Mais je vais aller, Seigneur, pour... là tu ne vas pas. C'est le Seigneur qui dirige toutes choses. Un peu comme Philippe, vous en souvenez, il s'est trouvé en Samarie, qu'il était en train de prêcher l'évangile, où il y avait des conversions, et à un certain moment, l'Esprit, il le prend, et il l'amène dans un désert. Tout seul, il n'y a personne. Il aurait pu dire, mais pourquoi tu m'amènes là, Seigneur? Je suis en train de faire un grand travail, là. Il y a des gens qui se convertissent, et toi, tu me prends et tu m'amènes au désert. On ne comprend pas les voies de Dieu. On ne comprend pas les voies de Dieu. D'ailleurs, si Marc il a pu être utilisé par le Seigneur à écrire les évangiles, c'est justement peut-être, hein, je ne fais pas une affirmation, peut-être parce qu'il a trouvé, et le Seigneur il lui a donné cette envie de travailler, cette envie de se confier en lui, mais pour cela, encore une fois, vous voyez, il a eu besoin d'un Barnabas. Et c'est exactement ce qui va se passer dans notre propre vie, dans nos églises. On a besoin de Barnabas qui encourage, qui exhorte les frères et sœurs à avancer. Car nous sommes là pour avancer. Nous ne pouvons pas stagner. Non, nous ne pouvons pas. Pourquoi ? Parce que nous avons en nous cet esprit qui nous parle, qu'il veut que nous soyons constamment en mouvement. Parce qu'il y a tellement de gens auxquels nous pouvons annoncer la parole de Dieu. Il y a tellement de gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne connaissent pas ce grand amour que Dieu il a eu pour cette humanité, de donner son Fils pour nous sauver. Voilà c'est ce qu'il nous dit. Hein, le Barnabas spirituel, le chrétien spirituel, on doit avoir en nous cet esprit d'exhortation. Et il y a plusieurs personnes dans notre église qui ont besoin de ce Barnabas. Et vous les voyez, hein, si vous êtes un peu plus frais, hein, si vous fréquentez l'église un peu plus, il y a des gens qui sont dans les besoins, pas spécialement de denrées pour manger ou de l'argent, mais des mots, des paroles, pour qu'ils puissent reprendre courage, pour qu'ils soient encouragés. Et ça, c'est un chrétien spirituel qui peut le faire. Pas comme Samson, chrétien charnel, qui ne désirait faire qu'à sa tête, qu'il descendait constamment dans le monde pour assouvir ses sentiments, ses désirs, ses passions. Et il menait, encore une fois, il a mené la dissension dans sa famille. Pourquoi ? Parce qu'il a dit à son père, vous en souvenez, il a dit à son père, « Je veux cette femme-là. Prends-moi cette femme-là parce que je la veux. » Et son père lui dit, « Mais il n'y a pas de femme dans ton peuple pour que tu y vas et tu prends quelqu'un de l'extérieur. » Et là, il arrive la dissension. Mais un chrétien spirituel, il se laisse diriger par Dieu. Un chrétien spirituel, il est toujours là où il voit les besoins. Et comme il est dit dans les Épîtres, premièrement nos frères et sœurs, parce que c'est notre famille. Ensuite, allez aussi ailleurs. Mais premièrement, le frère et sœur. Et c'est ça que nous devons trouver dans nos églises. Des Barnabas qui ont un grand projet pour l'église du Seigneur. Et ces projets-là que Dieu il a pour l'église, on ne peut les trouver que dans la parole de Dieu. Hein. Comment se comporter dans l'église et en dehors de l'église? Dans l'Église, c'est là que nous avons la communion avec nos frères et sœurs. Hein? Quelle joie, disait David, de se trouver avec le frère et sœur. Il y en a d'autres qui disent, oh là là, encore à l'Église, je vais voir Roland, là, je ne peux pas l'encaisser. C'est ça, l'amour. C'est ce qu'il avait, Barnabas. Il souhaitait accueillir tous ceux qui se sentent rejetés. Un peu comme le Seigneur. Hein. Les gens, les souverains sacrificateurs, les pharisiens, ils disaient, regarde-le, il va chez les pécheurs. Ben, il est venu pour ça. Hein. Voilà pourquoi nous avons besoin de cela. Et encore une fois, il a pardonné, mais Paul aussi il a pardonné. Mais pour ce second voyage, il voulait avoir des gens sûrs, des gens faits, des hommes mûrs, qu'il avait au plus profond de lui-même une seule pensée, celle de répandre la parole de Dieu. Parce que par la suite, dans 2 Timothée, il dit à Luc, « Luc, seul avec moi, prends Marc et amène-le avec moi, car il m'est utile. » Il m'est utile. Voilà ce que nous devons faire. Et pourtant, tous les collaborateurs de Paul, ils ont été nommés dans la Bible. Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Voilà pourquoi Barnabas, il était un constructeur de l'Église. C'était quelqu'un qui voulait l'Église dans laquelle il allait, et dans chaque Église où il allait, il voulait qu'il y ait cette union. Mais encore une fois, cette union, nous ne pouvons la construire ou la, pas construire, maintenir, que si nous le voulons. Car s'il y a division dans des églises, c'est parce que nous-mêmes, nous désirons cette division. Nous nous croyons plus haut que les autres. Nous mettons nos frères et sœurs plus bas. Nous faisons aucune attention à eux. Le Seigneur, il veut que nous marchions ensemble. Voilà pourquoi nous avons besoin de Barnabas. Que le Seigneur nous aide à voir parmi nos frères et sœurs ces Barnabas et les honorer. Car le Seigneur désire ces hommes-là, ces femmes-là. Car son Église, il faut qu'elle avance. Et un jour, le Seigneur, il va revenir. Bientôt, il va revenir. Et ce qui va arriver, ce qui va apprendre, c'est son Église, ce n'est pas les gens du monde. Jésus, il nous l'a dit, vous n'êtes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, nous y vivons, nous y sommes. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous faisons partie d'une autre civilisation. C'est la famille de Dieu. Et c'est à chacun de nous de se comporter en tant qu'enfant de Dieu et faire honneur à notre Père. Que le Seigneur nous aide à prendre conscience de cela. Que bientôt, dans notre réouverture d'année, après que tout le monde rentre des vacances, bien reposé, que tous nous soyons animés d'un seul et unique désir, c'est de porter cette bonne nouvelle à tous ceux qui encore non pas cette vie éternelle, et que le Seigneur nous dirige à toutes choses. Amen.